et bienvenue chez les Décopreneurs, le podcast uniquement dédié aux architectes et décorateurs d'intérieur. Moi, c'est Flore, je suis décoratrice d'intérieur en Rhône-Alpes et donc podcasteuse maintenant chez les Décopreneurs. J'ai créé ce podcast en juin 2020 et c'est un podcast qui se consacre entièrement à l'aspect business des décorateurs et d'architectes d'intérieur. J'ai de la chance vraiment d'interviewer des professionnels du métier qui souhaitent partager en fait leur parcours ainsi que tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils n'ont pas appris, les erreurs qu'ils ont faites, etc. On peut toujours, toujours apprendre des autres. Puis, ils partagent les décisions qu'ils ont prises, les investissements qu'ils ont faits ou encore les stratégies qu'elles ont menées pour porter leur business. D'autres professions complémentaires passent aussi derrière mon micro, comme des coachs en business, des experts en SEO, des comptables ou même des photographes d'intérieur. Ici, vraiment, on parle uniquement entreprise pour aider les entrepreneurs du domaine de la décoration et de l'architecture d'intérieur à créer et maintenir l'entreprise au service de leur passion. Allez, on y va ! Aujourd'hui, je suis avec Laetitia Lepetit à son compte depuis 10 ans, depuis 2014 à Vannes. Elle a une agence de architecture et de décoration d'intérieur. Et puis récemment, elle a lancé une formation exclusivement dédiée aux archis et déco, où elle parle surtout rentabilité, efficacité et business. Bienvenue Laetitia.
Merci, je suis ravie d'être là.
Ben écoute, moi je suis ravie que tu es là aussi en fait, donc merci à toi. Est-ce qu'on peut commencer par parler de ton parcours s'il te plaît, de quand tu as débuté jusqu'à aujourd'hui?
Très bien, oui, avec grand plaisir. Alors, il faut savoir que moi déjà je suis architecte d'intérieur mais en reconversion. Je suis à la base plutôt d'une formation comptable et commerciale, mais j'ai toujours travaillé dans le domaine de la rénovation, de l'habitat et de la construction depuis mes 18 ans. Donc voilà, c'était un peu une destinée. Donc j'ai fait une reconversion en 2012-2013 dans une école d'architecture intérieure en présentiel. J'ai repris les bancs de l'école et en 2014, on a créé la société Elle Décor avec mon mari, donc qui est artisan. Voilà, donc au départ, pendant 5 ans, j'ai pas fait de gros projets, on travaillait uniquement tous les deux, c'était plutôt, voilà, on va dire de la rénovation de salle de bain, d'une pièce de vie, où je prodiguais plutôt de la visite conseil, je faisais un petit peu de projets, mais c'était vraiment très très minime. Et en fait, ça ne me convenait plus, je veux dire que j'ai passé 4-5 ans comme ça, et je me suis vraiment posée, savoir où est-ce que je voulais aller. En 2020, j'ai fait un gros projet de rénovation complète avec vraiment tout ce projet sur un restaurant étoilé. Et ça m'a vraiment réveillée, en fait. Et je me suis dit, mais c'est vraiment ça que je veux faire. Ça, c'est top. Et c'était, voilà, c'est là où je voulais aller. En 2021, j'ai fait la formation d'Isabelle Gomez, que tu connais bien également. Et ensuite, voilà, j'ai pris un local, j'ai fait une formation complémentaire d'un an, donc architecture intérieure et maîtrise d'œuvre. Donc, en plus de mon activité actuelle, j'avais cours le matin, devoir l'après-midi et boulot le soir. Ça a été intense pendant un an. Vraiment, ça a été chaud, mais j'avais anticipé dans le sens où j'avais pris aussi une alternante qui pouvait m'accompagner, répondre au téléphone, prendre les rendez-vous et faire un petit peu le relais. Ce qui fait que ça ne s'est pas trop ressenti, on va dire, sur mon activité, parce que je faisais quand même quelques rendez-vous l'après-midi et je faisais mes devoirs jusqu'à à peu près 2h du matin. Voilà, je vais enchaîner un an comme ça. Bon, voilà, ça s'est fait, je ne le referai plus.
Oui.
Et voilà. Et donc, on avait un local de 40 mètres carrés à l'époque et puis tout s'est enchaîné. J'ai fini la formation avec mon diplôme d'architecture intérieure, suivi de chantier. Et on a ouvert un showroom de 300 mètres carrés. J'ai pris un deuxième diplôme en architecture intérieure. Et un troisième alternant. Et voilà, aujourd'hui, on en est là.
Est-ce que tu peux dire que, entre autres, le passage Isabelle Gomez t'a permis à, j'ai envie de dire, mettre le turbo sur ton entreprise?
Ah non, mais c'est même pas ça. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Isabelle, mais ça a été, vraiment, ça a été un moment décisif de ma vie, en fait. Ça a été un élément transformateur. C'était vraiment le truc qui a fait le déclic. J'étais encore en formation, j'avais augmenté mes tarifs, j'étais déjà en train de revoir mes process. Enfin voilà, ça a été une révélation pour moi. Et en fait, avant, j'étais un petit peu dans la société puisque mon mari faisait les travaux et moi, je me sentais un peu en arrière-plan, si tu veux. J'étais pas pour moi l'élément essentiel. Ah, mais là, je suis rentrée, ça a changé. D'ailleurs, il m'a dit, je ne reconnais plus ma femme.
Mais... D'autant plus que la société s'appelle quand même Elle Décor. De Laetitia Décor ou pas ?
De Laetitia et de D de David. Parce qu'on est deux, tu vois, Elle Décor. Enfin, voilà. Bon, c'était pas très recherché, mais ça le faisait.
Non, mais c'est marrant qu'en fait, ouais. Tu vois, le premier initial est en fait le tien. Ouais. Et toi, dans cette entreprise-là, bah, tu fais des choses, mais finalement, tu t'épanouis.
Ouais, je m'épanouis.
Pas tant que ça.
Non, et puis je me sentais pas du tout légitime, en fait. Donc, j'étais vraiment, en arrière-plan. Et c'est vraiment cette formation. Alors déjà, je voulais vivre autre chose. Et cette formation est arrivée par hasard. En fait, j'en ai entendu parler à l'UFDI, que tu connais très bien. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il me faut. Donc, il restait une place par champ. Je me suis inscrite. Mais ça a été incroyable. Et ça, vraiment, ça a transformé vraiment ma vie professionnelle. Et ma vie personnelle aussi, en fait. Ouais.
Elle est excellente.
Elle est incroyable.
Oui, bien sûr. Et effectivement, elle a fait deux épisodes avec moi, il me semble, de tête, j'ai envie de dire 11 et 30 ou 11 et 33. Ouais. Mais c'est des épisodes à écouter. C'est quelqu'un qui a une force de vie que toi, tu as en partie maintenant, aujourd'hui aussi.
Oui, tout à fait. Ouais. Mais en fait, j'avais déjà cette force, en fait, ce caractère en moi. Bon, là, les choses de la vie ont fait que, voilà, il se passe des choses, mais... J'ai vraiment retrouvé, en fait, aujourd'hui, j'ai avancé différemment, j'ai fait d'autres formations complémentaires, je me forme énormément. Mmh. Et j'ai une rage d'y arriver, en fait, on va dire, tu vois, vraiment mais c'est incroyable. Je vais pas dire que je vis pour ma société parce que c'est pas ça et c'est pas ce que je souhaite, mais en tout cas, c'est vraiment ce qui m'anime de bien faire les choses, d'être là, d'être présent, d'être incontournable, on va dire, et en tout cas, je fais tout pour ça.
Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? Parce que je sens qu'il y a vraiment un avant et un après. Tu te formes plus, tu te fais suivre. Mais qu'est-ce que... Parce que c'est pas genre parce qu'on décide qu'on va avancer,
oui,
que tout s'aligne et que ça marche.
Oui, oui. Enfin, j'ai changé de fond en comble, en fait, ma façon de travailler. Donc, sur ces 5 dernières années, j'ai remis à plat, en fait, toute ma façon de faire, toute ma façon de communiquer, toute ma façon d'être aussi. Enfin, voilà, je représente aussi ma société. J'ai mis en place des process très, très, je vais pas dire strict, c'est pas ça, mais en tout cas, comme tout le monde, j'ai expérimenté des choses qui ont bien marché, moins bien marché. Mmh. Mais effectivement, aujourd'hui, avec mes collègues, on partage des choses. Je leur apprends la façon dont je veux que l'on échange avec nos clients, avec nos partenaires artisans. Aujourd'hui, on a plus d'une cinquantaine d'équipes collaborateurs pour gérer l'ensemble des chantiers de rénovation intérieure, extérieure, extension. Donc, ça fait du monde quand même. Ça fait beaucoup de choses. On a toujours une trentaine de dossiers en cours. Si derrière, tu n'as pas un process qui est calé, qui est bouclé, qui est... Je reste pas. J'ai passé une année d'après Covid à me dire non mais attends, j'avais l'impression d'être noyée sous les flots tous les jours. J'ai dit je veux plus ça. Donc j'ai aussi bien revu ma façon de faire. Mais oui effectivement j'ai une vraie volonté de faire et de bien faire et d'avancer.
Et donc après Covid tu mets tous tes processus à plat. J'imagine que tu as mis à plat aussi les processus que tu montres face aux clients. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que vit un client qui t'appelle pour la première fois ?
Oui, tout à fait. En fait, j'ai mis en place un processus donc, que j'ai synthétisé, enfin même pas synthétisé, mais en tout cas, j'ai mis sur Trello. C'est-à-dire que même si demain, je ne suis pas là, que ce soit moi ou ma collaboratrice, actrice Ambre, en fait, que l'on vient d'embaucher, il y a un processus. À partir du moment où le client appelle jusqu'à la remise des clés de fin de chantier, on a étape par étape listé ce qu'il faut faire. Donc, j'ai pris un certain temps. Voilà. Donc, en fait, le client, dès qu'il appelle, il nous donne décrit son projet, effectivement. Donc, il y a une prise de rendez-vous, bien entendu. On envoie des mails de confirmation avec des exemples de boucles, des réalisations. Je me déplace. Le devis est toujours remis au showroom. Systématiquement. Okay. Toujours. Je ne fais jamais d'envoi par mail, ni d'envoi par courrier. Même là, j'ai un prospect qui est sur une île, en fait, et il se déplace pour la remise de devis. Parce que, à moins que les clients soient à l'étranger, bien entendu, mais en tout cas, on fait toujours en visio. Parce que je leur montre, en fait, quels sont les livrables qu'ils vont avoir au fur et à mesure de notre collaboration et comment on procède, comment on va échanger et comment ça va se passer. C'est cadré, c'est figé. Le client sait que derrière, il va y avoir un travail de qualité, des rendus de qualité, mais aussi que ça va être bordé, quoi.
Oui, bien sûr. Donc, tu bordes aussi tout de suite, en fait, tout ce qui est contractuel, la partie de communication, etc.
Oui, c'est ça. En fait, on a des contrats. On a un contrat de base, donc à l'élaboration du devis. Et ensuite, on a des fiches, en fait, on va dire, que l'on fait signer ou pas au client, suivant les remises, suivant effectivement les étapes du projet, notamment sur le projet clé en main avec le suivi de chantier, qui permet de dire, bon, voilà, il y a eu deux modifications. Aujourd'hui, on vous a remis le projet final, on va dire. Toute modification sera supplémentaire, sera soumise, on va dire, à plus-value ou à facturation, en fait, supplémentaire, bien entendu, parce que sinon, c'est infini. Tout est bordé, tout est cadré. Hein. Et le client, il aime ça, en fait. Il est aussi là, il vient aussi vers toi pour ça.
Parce qu'il sait exactement ce qui va arriver, et toi aussi d'ailleurs. Ce qui permet de prendre plus de clients, parce que tu peux t'asseoir en fait sur une méthode qui marche.
Exactement, exactement. Aujourd'hui, on a des projets de conception uniquement, donc accompagnement à la construction, suivi par des architectes d'intérieur avec qui on a beaucoup de avec qui on a des collaborations. Et on a des projets de rénovation clé en main, donc on est à peu près à 30% de dossiers de conception et le reste en clé en main. Mais on a toujours en cours 30 dossiers, environ entre 25 et 30 dossiers en cours. Et donc on est deux archis intérieurs dans l'agence et puis mon mari maintenant qui est basculé chef de chantier, artisan aussi, qui nous fait les petits trucs que les artisans veulent pas faire et puis des petits projets quoi. Mais effectivement, si c'était pas calé, mais t'imagines, enfin, ce serait...
Ah, mais t'aurais été morte.
Ah bah, c'est clair.
C'est pas possible. Donc, et tu m'as dit, tu travailles sur Trello?
Oui, pour la gestion, la communication, on a en fait tout un process qui est élaboré, donc qu'on duplique en fait dès qu'on ouvre un dossier. On duplique, donc étape 1, appel, que ce soit pour une visite conseil ou pour... Enfin voilà, on a plein de choses. Donc, il y a à peu près une trentaine d'étapes, en fait, avec des sous-étapes que l'on doit cocher, des checklists et tout ça. Donc, j'ai pris en version payante qui me permet aussi d'avoir beaucoup plus de fonctionnalités. J'essaye Notion, mais je t'avouerai que, bon, voilà. Moi, j'essaye.
On est pareil.
Mais voilà, Trello fonctionne bien pour moi. C'est un outil qui est facile à gérer. Pour ma collaboratrice, ça fonctionne aussi. Donc, pour l'instant, on en est là. Et ça colle plutôt très, très bien. J'essaie beaucoup d'outils. C'est ce que j'en parle dans ma formation aussi. Mais effectivement, voilà, c'est ce qui me paraît le plus simple, le moins imbuvable et le plus facile à vivre, on va dire.
Ouais. Moi, j'ai longtemps fait Trello. J'y avais pas 30 étapes, mais 15, mais pareil. Tu vois, et j'ai voulu absolument suivre le mouvement Notion et
Moi, j'ai attendu.
Je peux pas, et pourtant, il y a des formations, il y a des trucs, des machins, et j'y arrive pas, et je perds des notes, et il y a des trucs qui s'en vont, et que j'arrive. Donc, voilà.
Je pense qu'il faut être au clair avec ce qu'on utilise, en fait. Faut pas suivre une mode où il faut vraiment. Alors, on perd toujours un petit peu de temps à s'essayer, mais en tout cas, faut vraiment faire quelque chose qui nous paraît le plus simple, le plus efficace possible, quoi. Voilà, pour faire confiance. Hein.
Et donc là, tu as 30 étapes.
Oui, à peu près une trentaine d'étapes suivant la complexité du dossier. Donc, et dans les cartes, en fait, dans les étapes, j'ai des checklists. Par exemple, dès le premier rendez-vous, c'est-à-dire, c'est marqué appel, donc pause du rendez-vous. J+1, confirmation du rendez-vous par mail. J+3 ou J-1 avant rendez-vous, donc par exemple, le télémètre, le machin. C'est vraiment, en fait, j'ai pensé ces étapes de façon à dire, si demain je ne suis pas là, est-ce que l'entreprise peut tourner avec mon process sans que je sois là? Tu vois, il peut arriver des choses dans la vie. Hein. Et vraiment, j'ai pensé ce truc en disant, OK, il faut vraiment que le décor, ça reste le décor, que ce soit moi ou pas, le process, il doit rester le même. Donc, j'ai vraiment posé, bon, j'ai mis un temps fou à le faire. Ouais, je l'améliore au quotidien, en fait, si tu veux. Mais en tout cas, Pour le moment, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, c'est-à-dire que ce soit un client, un tel ou un tel, le processus reste le même et on sait où est-ce que l'on en est à l'instant T, quoi.
Et donc, du coup, tu arrives aussi à bien suivre le temps qui te reste, le temps pour un projet complet, le temps qui reste et les prochaines dates d'étape, j'imagine.
C'est ça. En fait, ça permet avec Trello de pouvoir te marquer des dates de rendu, des dates, tu vois, des dates butoirs, en fait, et de dire, voilà, quand tu es à la prochaine étape, tu as clôturé l'étape 4, on va dire, l'étape 5, tu sais qu'elle doit être rendue sous 15 jours. Donc, tu as déjà des dates qui sont calées, ça te met des rappels, tu peux partager aux clients si tu le souhaites, tu peux partager aux artisans si j'ai longtemps fait. Donc, c'est aussi pour ça que j'étais restée sur Trello, parce que pour les artisans, c'est facile.
Ouais.
Et puis, c'est gratuit. Pour eux, enfin, s'ils le souhaitent. Donc, c'était plutôt quelque chose qui permet d'avoir une visibilité instantanée, assez facile et assez facile à suivre, quoi. Voilà. Mais oui, je sais toujours où est-ce que j'en suis. Hein.
OK. Donc, Trello, 30 étapes. Est-ce qu'il y a... est-ce que tu en parles dans la... je vais formuler ma phrase correctement. Il y a forcément la partie, parce que j'aimerais bien qu'on rentre un peu plus en détail dans ton processus, si on peut. Donc, il y a cette, prospect, appel, rappel, envoi de mail, rendez-vous de vie, checklist avec les choses à amener. Est-ce que toi, déjà, tu as séparé le rendez-vous de vie et le premier rendez-vous pour démarrer le projet ?
Oui. Alors, je vais te dire, effectivement, il y a vraiment, à partir du moment où il appelle, à partir du moment où il y a le premier rendez-vous, j'ai déjà, en fait, dans ma trame, j'ai un onglet communication, donc c'est-à-dire que je retranscris tous les échanges de rendez-vous et plus ou moins tous les échanges de mails, les infos clients avec le numéro de téléphone, le mail, comme ça, si je suis pas là, toutes les infos sont notées de toute façon, les artisans qui interviennent, les suivis de facturation. Ensuite, j'ai une phase 1 donc, qui est découverte client. Donc là, toutes les informations sont données. Quand est-ce qu'on fait le premier rendez-vous, le suivi. Enfin, vraiment, c'est vraiment la première étape avant l'établissement du devis. Vraiment. Donc, ça peut être, Ensuite, il y a le devis contrat. Une fois que le devis est validé, qu'est-ce que l'on fait, en fait? Donc là, effectivement, je me suis mis plusieurs choses. Donc la fiche contact d'apporteur d'affaires pour les artisans, la prise de rendez-vous sur place, voilà, tout est checké, en fait, si tu veux. Et donc, j'ai essayé de penser étape par étape, et après, avec les remises de projet d'intention, la présentation de projet décoratif, finalisation de projet, et puis, je mets, en fait, en intérieur, tous les documents qui doivent être signés ou remis au client. Donc, en tout cas, les bases. Et ça, jusqu'à, j'ai même eu des fiches, acheter cadeau client, programmer photographe, enfin, voilà. Et puis, communication sur les réseaux, vraiment jusqu'à la fin. De dire, les choses qui sont récurrentes dans un projet, forcément, pose-les, prends-toi du temps et pose-les, en fait. Et c'est hyper important de faire ça et c'est beaucoup plus serein pour tout le monde.
Bien sûr, demander l'avis de Google, etc.
Oui, tout à fait. Le lien, tu l'as directement sur Trello, tu n'as plus qu'à le copier et l'envoyer, en fait. Voilà.
Oui, ça fait. Et ton CRM, pour le coup, il y a aussi.
Oui, tout à fait.
Donc là, tout est cadré. Jusqu'au bout. J'imagine que tu suis aussi, par exemple, d'où viennent tes clients.
Oui, alors, ce n'est pas depuis très, très longtemps. Ça, c'était une chose, effectivement. J'essayais de suivre, mais je n'avais pas vraiment de suivre à proprement dit. Depuis qu'on a le showroom, notamment, donc ça fait un an et demi. Là, aujourd'hui, on a un showroom de 300 mètres carrés. Donc, on a et du passage, et des gens, on a beaucoup de gens qui viennent d'Instagram, notamment. Et c'est important pour nous de savoir... par quel biais ? Est-ce que c'était par hasard, parce qu'ils ont vu de la lumière, ou est-ce que... Donc, effectivement, aujourd'hui, on note ça, on est beaucoup plus précis par rapport à ça, et ça nous permet vraiment d'avoir un bon suivi et une bonne approche, en fait, aussi des demandes des clients.
Et ça t'aide aussi, pour le coup, à mieux diriger ta communication ?
Oui. Alors, mieux diriger ma communication, moi, je me suis recadrée aussi il y a 2 ans. Je fais beaucoup de recadrage. Je voulais vraiment aller vers et du haut de gamme et du professionnel. Donc, haut de gamme, ça ne veut pas dire vraiment des trucs clinquants, mais ça veut dire vraiment des projets très finalisés, du projet clé en main, avec quand même de la belle conception, du meuble sur mesure, vraiment un travail de fond qui est où vraiment j'ai une plus-value à apporter au projet. Et aussi la partie hôtel, restaurant. Donc, j'ai vraiment refait mon site internet, retravaillé ma communication sur les réseaux pour ça. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc, Et c'est vrai qu'après, bon, bah, y a des gens qui ont des projets de réno, qui viennent au showroom et qui se disent, bon, bah, au final, ça reste, votre communication, elle reste accessible. Mais malgré tout, j'axe quand même. Je fais un mix entre, voilà, on fait de la, on s'adapte, mais je tends quand même vers du plus haut de gamme et de la restauration. Et cette année, j'ai fait pas mal de projets pro.
Oui, donc, du coup, le fait de changer ta communication, ça fait 2 ans que tu as commencé. Ça, il faut quand même bien en prendre en compte que ça n'est pas une histoire du jour au lendemain.
Non, bien sûr. Ah non, bien sûr. Et encore une fois, je veux dire, en 2020, j'ai fait mon premier restaurant étoilé qui a été une très, très, très belle vitrine, hein, très clairement. Mais c'est vrai que c'est, bah, on découvre aussi une autre clientèle. Hein. Ce n'est pas du tout la même approche, les mêmes attentes, ni les mêmes budgets. Même si j'apprécie énormément le côté client particulier, ça permet de faire des projets quand même très différents et avec des visuels aussi très différenciants. Donc voilà, ça n'arrive pas tout de suite, il faut de la récurrence, il faut des marchés, mais rien n'arrive tout de suite. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, Instagram, tout le monde dit « Ah bah oui, mais t'as un sacré réseau, mais j'ai démarré comme tout le monde avec 0 follower et avec une communication hyper approchante. » Enfin voilà, je veux dire, et on teste des choses. Enfin voilà, en tout cas, moi, je me prends pas la tête là-dessus, je fais ce que j'aime faire et puis voilà.
Si tu devais recommencer aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais autrement ?
Oh, j'attendrais pas, en fait.
En fait, avant de te lancer, tu appellerais Isabelle Gomez. C'est pas.
Mais en fait, non, mais je me ferais confiance, en fait. Et j'aurais une posture. Mais je me rends compte que j'ai perdu 5 ans à ne pas me faire confiance, en fait. À dire, ouais, mais peut-être que j'étais à. Je pense qu'au tout début, je pense que j'étais à 60 euros la visite conseil, je pense, pour 2 heures, tu vois.
C'est interdit, ça.
Ok, donc, bonjour madame, monsieur, vous voulez que je vous donne de l'argent ?
C'est ça.
En gros, c'est ça. Mais voilà, encore une fois, c'était un moment de ma vie qui était très particulier. Mais non. Alors, je vois la différence quand même aujourd'hui avec les personnes qui se lancent, qui ont quand même, qui ont des outils peut-être différents de ce que l'on pouvait avoir il y a plus de 10 ans. Je suis si vieille que ça, mais qui ont aussi une confiance. Et je pense que la posture d'entrepreneur est essentiel. C'est pas l'important, elle est essentielle. Ok, on fait du dessin, ok, on met des jolis papiers peints, ok, machin, mais le chef d'entreprise, il faut qu'il ressorte avant tout. On est là pour gagner de l'argent, on est là vraiment pour que ça perdure, on est là pour faire évoluer son entreprise, en fait. Et je dis toujours, l'entreprise doit être à ton service, c'est pas l'inverse. Si tu commences à ne plus prendre de vacances, à travailler du lundi au dimanche, à dormir 3 heures par nuit, à un moment, on ne pose pas les bonnes questions. Oui, au début, tu peux le faire parce qu'effectivement, il faut que tu te lances et tout ça, mais il ne faut pas que ça dure 15 ans, quoi. C'est pas possible.
Comment tu cultives ton posture d'entrepreneur ?
Alors, encore une fois, je fais beaucoup, beaucoup de formations. Je lis beaucoup de livres de développement personnel. Alors bon, je pense que tout le monde fait la même chose. Je me fais aussi accompagner d'une coach, en fait, depuis plus d'un an. Qui m'a aidée, j'avais le projet de lancement de formation, et le syndrome de l'imposteur, il apparaît à tout moment de la vie. Et effectivement, c'était important pour moi de me faire accompagner, de dire, tu es légitime, et elle m'a donné beaucoup de clés, en fait. Je me suis beaucoup fait accompagner, je fais aussi beaucoup de trucs un peu, tu vois, énergétiques, enfin voilà, donc, parce que je trouve essentiel, je ne vais pas dire qu'on est un outil, mais en fait, l'entreprise, elle vit à travers toi. Si toi, tu ne vas pas bien, si toi, tu n'es pas en confiance, si toi, à un moment, tu as un creux, ou si tu es dans le bad, forcément, ça va se ressentir dans ton entreprise, en fait, dans ta volonté de bien faire, dans ta volonté de communiquer, d'être dans les réseaux et de te montrer. Forcément, ça, tout va de pair. Donc, j'ai pris 2-3 années à vraiment faire en sorte que moi et mon être intérieur, on va dire, aille bien, tu vois, et soit dans un mental de winner, quoi.
Oui, bien sûr, mais ça se travaille au quotidien, non ?
Exactement, ouais.
Okay. Parce que pour moi, la posture d'entrepreneur, aujourd'hui, ce que je vois beaucoup, c'est qu'il y a pas mal d'architectes et des décorateurs d'intérieur, mais il y a beaucoup moins d'entrepreneurs qui ont des entreprises d'architecture et de décoration d'intérieur.
Ouais. D'accord avec toi.
Et c'est, je pense que c'est une prise de conscience avant tout, de se dire j'ai une entreprise, Voilà, mon entreprise vend ça. Ça peut être des chaussettes comme ça peut être de l'architecture d'intérieur. Mais avant tout, j'ai une entreprise et donc du coup, il faut que j'aille chercher par exemple la rigueur mais aussi la rentabilité.
Bien sûr. Mais je pense qu'aujourd'hui, en fait, il faut se dire que dans tout métier, si tu n'as pas un minimum d'esprit commercial,
ouais.
Dans tout métier, que ce soit médecin, que ce soit n'importe quoi, tu es aussi là pour vendre une prestation, vendre quelque chose. Si tu ne vends rien, tu fais des bénévolats, tu t'inscris dans une association. Mais effectivement, je pense que c'est la base. Donc oui, alors moi, je fais beaucoup d'achats-reventes aussi, donc c'est très bien. Mais avant d'avoir le showroom et avant d'en faire, effectivement, voilà, quand j'ai posé les choses à plat, j'étais dans une démarche de vendre mes prestations et de dire « Ok, je veux vivre de ma société ». Parce que j'ai été les 3 premières années à avoir un job à mi-temps à côté et que je me disais, bon, bah oui, est-ce que tu te poses les bonnes questions? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux continuer à vivoter ou est-ce que tu veux être là, quoi? C'est quoi ton objectif, en fait?
Donc, en fait, le changement s'est opéré aussi parce que tu as commencé à te demander qu'est-ce que tu voulais.
Ah oui, ouais, tout à fait, très clair.
Tu as commencé à poser des objectifs et les suivre?
En fait, c'est en 2020, en même temps que mon premier restaurant est arrivé, en fait, là, je me suis dit, c'est quoi ton... Où tu te vois dans 5 ans? Ça a été, mais pour moi, alors tout le monde me dit, c'est très bizarre, mais où tu te vois dans 5 ans? Est-ce que tu veux être le mouton ou est-ce que tu veux vraiment être la personne qui dirige ta vie et qui va de l'avant et qui a... Je suis quelqu'un qui a mis l'idée à la minute, mais est-ce que tu les dis? Est-ce que tu les fais ou est-ce que tu les gardes dans ta petite tête et tu les notes dans un cahier et tu fermes le cahier? Non, en fait, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc, je me suis vraiment projetée et ça m'aide encore. En fait, je le refais chaque début d'année. Où est-ce que tu vois dans 5 ans, dans un an? Je pose des objectifs pour moi à la semaine. Et vraiment, pour moi, c'est quelque chose d'hyper motivant, hyper. Alors, satisfaisant, je veux pas dire ça, mais en tout cas motivant et qui permet de faire un vrai bilan, tu vois. De dire, OK, j'ai fait ça. Ça n'a pas marché, ça a moins bien marché, peut-être que je me suis plantée, c'est pas grave, on s'en fiche, t'as testé, tu rayes et tu repars sur autre chose, quoi. Et ça, par contre, ça a été un vrai succès, c'est cool, enfin voilà. Je pense que la vie d'entrepreneur, elle est faite d'essais, en fait. On ne naît pas entrepreneur, on devient et on devient chaque jour. Mais par contre, effectivement, ton mindset, la façon dont ta posture, à mon avis, fait la grosse différence.
Si tu dois donner 3 clés à ceux qui se lancent aujourd'hui, ça serait quoi?
3 clés. Donc, se faire confiance, ça, c'est la première.
Mais c'est aussi un peu le plus difficile, non?
C'est ça, ouais. Ouais, mais je pense que... Mais c'est comme je te disais tout à l'heure, il faut aussi apprendre à se guérir soi-même et faire des choses pour se guérir en tant que personne. Donc, se faire confiance. Poser des limites, créatifs, vraiment. Et puis y aller, quoi. Je me rappelle quand j'ai lancé au tout départ, dans les 3 premières années, je faisais les galeries marchandes. Avec ma petite table, mon petit book.
Ah oui?
Ouais. Mais parce que dans mon ancien job de commerce, je travaillais dans la menuiserie intérieure et dans la rénovation des vérandas, des machins, et c'était la galerie. Et on vendait. Et j'ai dit, bah, pourquoi pas? Ça me coûtait 20 balles la journée. Tu risques quoi, en fait? Tu
distribues. Et tu as eu des clients?
Mais j'ai encore des clients qui m'ont dit, on a gardé votre flyer parce que maintenant, je suis installée juste à côté de là où le hasard. Et qui m'ont dit, non, mais j'ai encore eu un appel il n'y a même pas 3 mois. Et la personne m'a dit, j'ai gardé votre flyer. J'ai fait des flyers un peu cartonnés, tu vois. Et en fait, elle est passée dans la vitrine. Elle m'a dit, oh, mais oui, mais je reconnais le nom et tout. Et je me suis dit, au pire, tu risques quoi? En fait, voilà. Au pire, tu risques quoi? Tu vas pas mourir demain, tu vas pas te faire, je veux dire, tente. Moi, aujourd'hui, je fais encore du boitage, je fais encore plein de choses, je fais un rendez-vous, je boite toutes les rues à côté. Mais fais, en fait, il faut être là, il faut que ce soit récurrent, il faut que ce soit visible. Fais. Il faut faire des choses. Vraiment, il faut oser. Aller dans les réseaux, même si on connaît personne. Aller se présenter, démarcher. Il ne faut pas rester inactif. Jamais.
Non, surtout parce qu'effectivement, la question de se dire, mais qu'est-ce qui... tu ne meurs pas demain si tu le fais.
Bah oui. Parce que quoi?
On ne peut pas... C'est quand même bien dans la vie, c'est qu'on ne peut pas mourir de honte, tu vois.
Exactement. Oui, oui, c'est... effectivement.
Si.
Heureusement, oui.
Heureusement, parce que bon, hein, oui, mais... Oui, on limite, effectivement, notre ego prend un petit coup.
C'est ça, ouais, mais bon, après, je me dis, voilà, je sais, enfin, je pense qu'il faut pas se prendre la tête, il faut faire aussi ce dont on a envie, et puis il faut faire des choses qui nous ressemblent, quoi. Il faut aussi ne pas suivre forcément les modes, il faut vraiment s'écouter et faire que ton job, les gens, ils vont venir pour toi de toute façon. Aujourd'hui, on est tellement sur le marché, il y a tellement d'offres à tous les prix, enfin, voilà. De tout et de rien, à un moment, les gens ils viennent pour toi et ton travail. Donc, c'est important de rester soi et de rester honnête envers soi, en fait.
Toi, tu as développé ça aussi un tout petit peu plus, j'ai envie de dire, parce qu'on se connaît, je peux dire que tu as des cheveux blancs.
Oui, tout à fait.
Que tu les assumes et que tu les mets au profit de ton entreprise, j'ai envie de dire.
En fait, c'est assez particulier parce que, bon, oui, effectivement, j'ai les cheveux blancs depuis 20 ans. Avant, je les cachais et maintenant, je les assume. Et c'est devenu, donc, pour ceux qui me connaissent, mon image est assez souvent sur les réseaux et sur mes cartes de visite et sur mes flyers et tout ça parce que c'est devenu quelque chose de reconnaissable, en fait. Et en fait, là, il y a 2 ans, je crois, j'étais à Maison Objet. Et il y a une personne qui vient me voir en me disant « Ah, vous êtes Laetitia ?» Oui, je vous suis sur les réseaux. Je pense que, enfin, tu vois, Maison Objet, il y a tellement de monde que, voilà, je n'aurais pas eu, en fait, cette différenciation. On ne m'aurait pas reconnue. Et effectivement, c'est comme mon logo, en fait. Ma tête, c'est un peu comme mon logo. Donc, à l'escalier, mais en tout cas, le côté coiffé-décoiffé, pas coiffé du tout parfois. Et voilà, c'est qu'avec les cheveux blancs, ça fonctionne bien. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment assumé et dont je tire profit parce que c'est pas ça, mais vraiment que j'utilise en fait. Donc, c'est ce que je dis aux gens, on est une société, mais on est aussi des personnes et je pense que pour le client, c'est rassurant d'avoir aussi autre chose qu'un logo et qu'un nom d'entreprise.
Du coup, on peut dire que tu as vraiment embrassé non seulement tes cheveux, ce que tu es, donc on est vraiment dans le personal branding. Tu as aussi embrassé le fait que tu avais une vraie envie d'être rentable, tu avais envie de faire confiance, et puis tu avais envie de mettre en place une façon de faire en sorte que ton entreprise grandit rapidement. Parce que là, pour le coup, si je calcule bien, c'est en 4-5 ans.
Ouais, en 4 ans.
Que tu as vraiment fait des énormes pas.
En 4 ans, tout s'est enchaîné, voilà, tout s'est mis en place. Je pense que j'étais 5 ans, 6 ans en état un peu végétatif, toi. Et voilà, et une fois que j'ai dit, bon, bah, je mets le pied, j'ose quelque chose, je suis rentrée de chez Isabelle, donc j'avais tout changé. On était encore en confinement, enfin, ouais, on a 18h, le masque et tout. Je suis rentrée, j'ai dit, je veux prendre un local. Il m'a dit, attends, ça va pas ou quoi? Donc, j'avais vu une annonce, un local de 40 mètres carrés, une petite vitrine dans un petit patin. J'étais harcelée le vendredi. Le samedi, j'ai appelé, ils m'ont dit non, mais. J'ai dit, on visite le dimanche et le lundi, je signe. C'était, je voulais ça. Ça faisait des années que je voulais ça, mais je n'osais pas l'exprimer, je n'osais pas le dire. Je l'ai gardé 2 ans, et du coup, là, on est sur un local de 300 mètres carrés où on a un magasin, proprement dit. On a du mobilier, des centres, tout un tas de trucs, les papiers peints. Où on accueille les clients du lundi au samedi. Et c'était vraiment ce que je voulais parce qu'au départ, quand j'ai fait ma formation, j'avais un idéal en fait. On a en Bretagne un truc un peu dans le même style, et vraiment un gros, gros complexe dans une belle maison. Et je me disais, un jour, j'aurai ça. Et en fait, j'ai arrêté de me dire, ok, arrête de rêver quoi. Enfin, fais-le, bouge-toi en fait. C'est pas en restant là à dire, mais les autres ils travaillent. Non, tu fais quoi toi, en ce moment? Rien. Donc, active-toi. Et voilà, par contre, ouais, j'ai beaucoup, beaucoup bossé, je me suis beaucoup formée, j'ai pas compté mon temps. Comme tout le monde, j'ai des enfants, ils ont bien, aussi bien compris. Et heureusement que j'ai une famille aussi qui m'entoure dans ce sens-là et qui disent, bon, bah, c'est super. Je mesure le parcours, quoi.
Oui, qui est grandiose. Est-ce que tu as, pour le coup, dans cette guette à plus, est-ce que tu as toujours été. Rentable?
Non. Ah ben non.
Ben voilà.
Ça serait trop drôle.
Ça sera trop bien. Parce que c'est quand même difficile de dire, ok, je vais aller prendre un local, si tu n'es même pas forcément sûr que tu peux te le payer, etc.
Ah bah, autant te dire qu'on est passé de 500 euros par mois à 2800 euros par mois. Ouais. Là, je me suis dit,
ça change.
Attends, ouais, ça change, c'était pas prévu. On quittait notre local, on est passé devant, on a dit, oh, c'est pas mal ça, on n'avait rien budgétisé, j'avais rien à mettre dedans.
C'était
super. Et puis, les banques ne nous suivaient pas. Enfin, bon, voilà, parce que c'était… Donc, on a tout financé en fonds propres. Ah non, il y a eu plein de fois où je ne me suis pas payée. Enfin, voilà, donc, je n'ai pas un parcours non plus différent de tout le monde. Mais non, aujourd'hui, moi, je prie que ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sélectionne aussi des marques par rapport à, effectivement, tout de remise.
Bien sûr.
À la façon dont c'est accessible. Nous, dans le showroom, on a pris le parti aussi de mettre des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Des magasins, de meubles, de déco, il y en a plein, si tu veux.
Bien sûr, du B2B.
Voilà, c'est ça. Donc, on a vraiment sélectionné des marques aussi qui changent et qui permettent de voir au client aussi notre côté un peu différenciant dans le projet, en fait, si tu veux. Donc, mais non, c'est, on est comme tout le monde. Hein, donc, on a galéré, on a mangé du pain noir, comme on dit. Mais ouais, c'est… Non, ça a été. J'ai eu des moments. J'ai postulé à des postes parce que je me disais mais j'en ai marre, j'arrête. On gagne pas d'argent, ça me saoule. J'ai fait des entretiens. J'ai eu même des promesses d'embauche. Et puis deux jours après, j'ai dit bon, non, c'est pas possible. Allez, on repart, tu vois. Et tu repars avec encore plus de niaque en disant ben non, on n'a pas fait tout ça pour ça. Et puis on travaille ensemble avec mon mari, donc on a la chance de s'épauler. En fait, je suis pas toute seule, si tu veux. Donc j'ai aussi
ça.
Quand il y en a un qui a coup de mou, allez hop, l'autre le remonte. Mais maintenant, bon, il va peu à peu, on va dire, je pense, peut-être faire autre chose de sa vie aussi. Mais l'entreprise, elle est scalée avec une façon d'aborder les clients. Aujourd'hui, le maître mot, c'est vraiment sérénité dans l'approche de, que ce soit sur la vente magasin, mais surtout dans le projet. Sérénité pour le client, mais sérénité pour nous, en fait. C'est pour ça que j'ai mis en place tout ce process. Enfin, il n'y a rien qui peut… voilà, ok, il y a une merde, bon, c'est pas grave, on sait comment faire, on sait comment la gérer, on sait… Et on a sérénité pour nos équipes, on a des équipes qui ont l'habitude de travailler ensemble, qu'on a sélectionnées, il y en a qu'on a remerciées aussi sur cette fin d'année, parce que, ou même sur les deux dernières années, parce qu'au final, ça collait plus, et en tout cas, ça n'allait plus avec la façon dont je voulais avancer pour l'entreprise, parce qu'on se doit d'amener un travail de qualité, en fait. Donc voilà, mais non, on a eu des moments où c'était compliqué, forcément.
Oui. T'as quand même toujours une vue sur cette partie-là ?
Oui, c'est moi qui fais la compta.
C'est toi qui fais la compta, ok. Et t'as un comptable aussi ?
J'ai un comptable, par contre je fais tout l'enregistrement, compta, machin, lui il me fait la déclaration de TVA et puis le bilan. Par contre, j'ai une interface où je vois tant de clients, vous n'ont pas payé depuis 10 jours, votre solde c'est ci, vous avez tant d'achats, tant de TVA en cours. Enfin, c'est vraiment très très bien fait. Par contre, j'enregistre tous mes achats et toutes mes rentrées en fait tous les mois. Donc, je sais, je fais mes relances, je fais mes factures, je fais mes devis. Donc, je sais exactement où est-ce que j'en suis. En fait, je traite mes LCR. Enfin, voilà, donc, Et je trouve que c'est essentiel pour chaque chef d'entreprise de savoir où est-ce qu'il en est.
Oui, et je dois dire que on arrive très facilement à dire que c'est essentiel et important quand ça marche. Est-ce que tu l'as fait aussi quand la rentabilité n'était pas en place ?
Oui, je faisais déjà ma compta, et d'ailleurs j'avais un comptable qui s'occupait de rien, donc je faisais même mes déclarations de TVA, donc je le faisais. Et après, moi, je suis de formation comptable. Alors, vraiment, j'ai une BTS comptable, donc je ne suis pas comptable de base, mais ça me permet quand même d'avoir un peu de base. Mais si tu n'as pas les notions, si tu ne t'intéresses pas, même si tu dis « Ah, purée, ouais, ce mois-ci, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi, 1000 euros de chiffres et j'ai tant de charges, comment on va faire ?» Ça te permet de dire « Bon, voilà, qu'est-ce qui a fonctionné le mieux ? Pose-toi un moment. Est-ce que tu as fait 3 visites conseil ? Est-ce que tu as vendu 3 trucs ? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux ? Est-ce que tu ne dois pas revoir tes offres ? Est-ce que tu ne dois pas réaugmenter tes prix ? Est-ce que tu ne dois pas te séparer d'offres aussi ? Parce qu'il y a des choses, tu l'as, ok, tu en as fait une fois. Peut-être que c'est un peu plus cher que ta visite conseil ou je ne sais quoi, mais est-ce que ça fonctionne vraiment ? Est-ce que ça a un besoin ? Tu vois, toute cette partie comptable aussi, elle est là pour te donner des indicateurs en fait. Ce n'est pas que des chiffres, c'est des indicateurs de fonctionnement de ta société. et du fonctionnement de tes services.
Donc, et de savoir combien sort tous les mois et en moyenne aussi savoir combien tu dois rentrer, etc.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Évidemment. J'ai une autre question, mais qui revient un peu en arrière sur notre discussion. Tu as ces 30 étapes. Combien? Parce que moi, j'en ai 15, mais je les garde quand même pour moi et j'en explique genre 3 aux clients. Parce que si tu arrives avec 30 étapes pour 15 étapes, il va te regarder et dire non, mais hey, la meuf, elle n'est pas bien.
Non, il y a beaucoup d'étapes en interne.
Quelle partie, toi? Est-ce que tu peux juste me dire les étapes que tu expliques aux clients?
Alors, les étapes, ça va être déjà la remise de devis, enfin, tu vois. Et puis, ça va être la partie maîtrée, la partie les plans d'intention. Moi, je fais appel à un maîtreur en général. Donc, je leur dis qu'ils vont être contactés par le maîtreur, blablabla. Ensuite, on travaille sur le plan existant, la projection sur les plans futurs, les planches d'ambiance, tous les avant-projets, les accompagnements choix de matériaux. Moi, il faut savoir que je ne les laisse jamais tout seul. C'est impossible qu'ils aillent chez tel ou tel. On a une marque. Mais jamais ils vont tout seuls dans un magasin. C'est même pas la peine. Ça veut dire que c'est la porte ouverte aux conneries. Donc, non. Donc, je les accompagne tout le temps.
Les accompagnes en magasin?
Par exemple, si on me dit, j'ai beaucoup d'échantillons ici, j'ai une matériothèque. Si, par exemple, je leur fais une propo pour une faïence. Ils hésitent entre deux et qu'ils veulent vraiment l'avoir, tu vois, soit en présentation au magasin sur un mètre carré ou machin, les 3D, qui veulent vraiment l'avoir. Donc, je les accompagne. Je n'ai jamais... Même, on va choisir les WC. Alors, ça, bizarrement, c'est le truc où on passe 3 heures. On va choisir les WC.
Voilà. Bien sûr.
Donc, mais jamais je leur dis aller chez...
truc pour regarder.
Pour regarder et choisir tout ça. Parce que non, ils vont voir des choses, ils vont dire... Peut-être c'est un moment, un moyen où ils vont remettre en question ton projet. On y va, on va complètement voir ça. On va juste confirmer tout ce que je vous ai dit, en fait, simplement. Donc, et puis après, les étapes, je leur dis aussi, là, il y aura une facturation, là, il y aura effectivement telle remise de support, les 3D, le plan électrique qui sera validé, le plan d'implantation, tout ça. Donc, en fait, les étapes pour les clients, c'est plus les livrables, en fait, simplement, et puis les interventions d'artisans, et puis les facturations, quoi, grosso modo. Ouais.
Aujourd'hui, c'est quoi la plus grosse bêtise que tu as pu faire? Parce que là, tu m'impressionnes. Donc, du coup, il faut qu'on arrive un peu sur un truc un peu, un peu mieux, tu vois.
Bon, dessin un peu. Alors, la plus grosse, là ou les... des conneries, j'en ai fait.
Mais celui où tu arrives déjà à rire, tu vois.
Alors... Dans une généralité, les plus grosses erreurs, où, en fait, là où ça a toujours été compliqué pour moi, où ça a toujours mal tourné, c'est quand l'affect est rentré. C'est-à-dire que quand, par exemple, on était devenu copain avec un artisan et qu'au final, c'était trop de confiance, tu vois, qui permet des choses. Et où, quand un client aussi... Quand je dis l'affect, c'est pas forcément parce qu'on est potes ou machin, mais qu'effectivement, il y a quand même un lien qui se crée et du coup, il n'y a plus de cadre. Enfin, je ne tutoie jamais mes clients, je ne les appelle jamais par leur prénom, enfin voilà, je ne prends pas de café, c'est bordé parce que je ne veux pas qu'il y ait ça justement. Je trouve qu'après, les relations sont très compliquées. Et de fait, à chaque fois que j'ai eu des problèmes, c'était quand on était un peu sorti du cadre de travail et que le personnel était un petit peu rentré en fait dans cette relation. Dans cette relation artisan, partenaire ou client, en fait, si tu veux. Et que le client se livre et que parfois tu dis des choses sur toi. Non. Alors, moi, il n'y a pas de ça. C'est fini. On reste dans un contexte très professionnel, très carré. On peut échanger, blaguer, machin, mais je ne vais pas raconter ma vie et je ne vais surtout pas les tutoyer. Ils ne vont pas me tutoyer non plus. Je veux pas de ça parce qu'effectivement, dans mon process et dans ma vision, tu vois, il faut que ça reste carré. En fait, j'ai besoin d'avoir ce contrôle, en fait. Après, c'est lié à mon caractère aussi, mais j'ai besoin d'avoir ce contrôle pour si demain, s'il y a quoi que ce soit qui se passe mal, c'est plus facile pour moi de dire non, on arrête là à quelqu'un où je n'ai pas forcément d'affect, plutôt que de dire oh, ça m'ennuie, la pauvre, elle va pleurer ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois,
bien sûr. Bien sûr.
Et ça fait partie de mes plus grosses erreurs. Ensuite, c'est aussi de trop écouter le client dans des projets ou quand ils ont plein d'idées et que au départ, tu te retrouves à suivre encore une fois leur projet alors que tu devrais être en amont. En fait, tu devrais être, je vais pas dire décideur, mais force de proposition. Et là où ils t'amènent toutes les semaines des nouveaux trucs, des nouveaux machins, parce qu'ils ont du temps et parce qu'ils sont intéressés, tant mieux, c'est très bien. Mais au final, ça se passera jamais bien. Parce que tu n'auras pas cadré, parce que tu subis, en fait, encore une fois. Et tu suis le truc. T'es pas donneur d'ordre. Enfin, t'es pas initiateur du projet. Là, c'est plus compliqué.
Et ça change aussi ta posture par rapport au client.
C'est ça. Ouais.
Ça, je comprends. C'est quoi la suite pour Laetitia ?
C'est quoi la suite ?
Oui, non, mais attends, parce que là, tu te développes quand même sur 4 ans d'une façon assez impressionnante. Je suis sûre, avec tout ce que tu m'as dit, qu'il y a déjà d'autres idées. Parce que je sais, il y a toujours un million d'idées. Il faut savoir trier déjà quand on est entrepreneur. Il faut savoir trier des idées parce qu'il y en a généralement un peu trop. Mais je suis sûre que tu as une vue sur ce que tu veux dans les prochains 3 à 5 ans. Ouais.
Je sais exactement ce que je veux. Donc, je veux vraiment développer le côté professionnel et le haut de gamme, hein, comme je t'ai dit. Donc là, depuis quelques mois, je trouve que c'est plutôt très, très bien engagé. Donc, c'est super. C'est cool. Toujours améliorer ta rentabilité et puis forcément la façon dont on avance sur notre entreprise. Et puis le côté formation, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et cette première session a été pour moi incroyable d'émotion et ça m'a vraiment confortée. Donc, et c'est bizarre parce que je l'ai inscrit à mes. Comment dire tu sais, quand on lance l'entreprise, on lance les statuts et c'est le premier truc que j'ai indiqué, donc architecture, déco, machin, tout bordel. Mais la formation, ça a été vraiment quelque chose qui me tenait à cœur déjà depuis plus de 12 ans, tu vois. Donc, et aujourd'hui, c'est vraiment. Cet échange, ce partage, de redonner tout ce que j'ai pu aussi avoir la chance de recevoir, en fait, c'est important pour moi. Et puis là, je pense que peut-être je vais reprendre quelqu'un, peut-être en études, que je vais aider aussi à avoir une vision aussi sur l'entreprise et sur l'entrepreneuriat et la posture d'entreprise, en tout cas, assez claire. Donc, je trouve que c'est bien aussi de transmettre aussi par le biais de l'école, hein, tu vois, de prendre de l'alternance ou des
stages,
voilà, ça en prend tout le temps. Donc voilà, et puis de développer aussi de très belles marques dans le magasin et de nouveaux partenariats, mais vraiment le côté professionnel aussi est très très important pour moi. Donc là, j'ai eu la chance de signer un hôtel là cette semaine.
Génial.
Je suis trop contente. Donc non, c'est voilà, on a différents projets, donc mais en tout cas voilà, de bien bien asseoir et de ce qu'on a pu faire déjà sur ces 3 dernières années, 4 dernières années, et puis la formation en premier lieu.
Ouais, donc en fait, sur les prochaines années, tu veux asseoir ce que tu as vraiment mis en place, et puis ensuite le levier et la partie formation.
Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait.
C'est ce que tu notes dans ton petit carnet tous les soirs.
Exactement. Donc là, c'est on met en place. Il y a de nouvelles dates de formation qui vont sortir prochainement et puis vraiment développer tout se met en place ensemble, en fait, si tu veux, hein, un petit peu sur tous les fronts, mais en tout cas ça va bien dans ce sens là et puis je n'arrête pas, tu vois, le côté réseau, le côté communication, moi c'est hyper important pour moi et puis j'adore ça en plus, moi je fais ma com toute seule et tout, et le côté Insta, je trouve que c'est hyper hyper chouette, hyper stimulant. Et puis les réseaux, être présente. En fait, moi, voilà, c'est ça. Mon credo, c'est d'être là. En fait, c'est pas de. Enfin, c'est un peu, comment dire. C'est pas prétentieux, mais tu vois, quand. Devenir incontournable, ça veut pas dire devenir la star du moment. C'est pas ça du tout. Mais c'est de dire, si quelqu'un entend parler de. Ah ben, moi, j'ai une problématique. Attends, je connais quelqu'un, j'ai vu quelque chose. C'est plutôt ça, en fait. Moi, dans l'idée de ce que je fais dans ma communication, dans mes réseaux, c'est de dire, voilà. Devenir une référence, en fait, si tu veux. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, j'y pense tous les jours et c'est comme ça que je vois ma com et mon avancement de société. Ouais.
Super. Un grand merci, Laetitia. J'étais absolument ravie d'échanger avec
toi.
C'est trop bien.
Non, franchement, je suis trop, trop contente.
Puis tu reviens quand tu veux, parce qu'il y a encore deux, trois sujets qu'on
pourrait... Ah, mais tu m'invites quand tu veux.
Forcément creuser.
Avec grand plaisir. En tout cas, merci, je suis vraiment très, très contente.
Merci à toi, à très bientôt.
À bientôt.
Alors, merci Laetitia, c'était un épisode absolument inspirant. C'est génial de voir comment, au bout de 6 ans, tu as mis le point sur la table et que tu as décidé de changer ta façon de gérer ton entreprise pour aller au-delà de là où tu étais. De dire, ben voilà, à partir de maintenant, ça suffit, je veux redevenir un référence pour mes clients, dans mon métier, et tu as tout fait pour y arriver. Donc en 2020, ça commence par ce restaurant étoilé, et puis ensuite il y a Isabelle Gomez où tu fais effectivement sa formation, puis ensuite tu continues à te former, tu t'entoures par des coachs, un vrai parcours pour arriver à l'entreprise aujourd'hui plus que pérenne et dans, si tu trouves ça génial, dans la sérénité. Voilà, qu'est-ce que tu as mis en place qui a fait qu'aujourd'hui ça marche? La première chose que tu as mis en place, et je pense que c'est extrêmement intéressant, c'est de dire, bah, je note toutes mes étapes pour les clients, mais aussi pour moi. Parce que qu'est-ce qui va se passer si moi je pars en vacances, si je ne suis pas là pendant 2 jours, 3 jours, comment faire pour que tout le monde puisse travailler dans la même optique de qualité et de sérénité pour le client. 30 étapes quand même, avec des sous-étapes, tu vois. Génial. Et je pense effectivement ça t'assure un certain tranquillité au quotidien de savoir quoi qu'il arrive, on sait où on va et on sait où on est au niveau de nos clients. Et puis je t'ai demandé les clés un peu pour arriver justement à ton niveau. Et puis tu as dit bah, d'abord il faut commencer par se faire confiance. Et ça c'est un énorme sujet, surtout je me suis rendu compte dans notre métier, hein, avec le syndrome d'imposteur, etc. Se faire confiance dans ce qu'on sait faire arrive pour moi en essayant de se développer tous les jours un petit peu. Donc lire des livres déjà, lire des livres sur d'autres entrepreneurs, comment ils ont fait. Par exemple, moi, je viens de terminer le livre qui était écrit par le fondateur de Nike. Et on lit que pendant 20 ans, il a failli faire faillite, en fait. Et donc, du coup, il avait quand même la confiance de continuer. Donc, ça a été très, très, très compliqué. Des histoires inspirantes comme ça. Se faire confiance, c'est aussi savoir que ce qu'on fait est beau. C'est de ne pas de savoir ce qu'on fait apporte quelque chose aux autres. Et ça, c'est un vrai travail à faire. Ensuite, c'est poser des limites. C'est très important, poser des limites par rapport aux artisans, par rapport aux clients, par rapport aussi par rapport au temps que tu passes et à droite et à gauche, etc., etc. Et puis, la dernière chose que Laetitia a dit, c'est de juste y aller. Donc en fait, quelque part, j'ai envie de dire, t'arrêtes de réfléchir, tu y vas tous les jours, puisque tu peux pas, on en a discuté, tu peux pas mourir d'honte. Donc en fait, si tu vas à une soirée et tu te rates, mais c'est pas grave, parce que ces gens-là, soit ils se rappellent pas du tout de toi le lendemain, soit ils se rappellent de toi, mais peut-être tu les croiseras pas, tu vois, il faut juste dire qui tu es, ce que tu fais. Et pour moi, le truc qui a le plus aidé, c'est d'aller dans des soirées et juste dire ce que je faisais. Et au départ, je n'osais pas. Tu vois, quand quelqu'un te demande « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Tu fais « tu vois, tu essaies de faire une sorte qu'ils ne t'entendent presque pas. Et je me suis mis de plus en plus dans des situations où je suis obligée d'annoncer ce que je fais dans la vie. Et avec le temps, en fait, tu prends de l'assurance dans cette annonce-là. Et puis voilà. Donc, super épisode. Un grand, grand merci à Laetitia. N'hésite pas à aller regarder sur son site, voir un peu ce qui se passe au niveau de sa formation. Donc, elle a une formation qui est spécifiquement dédiée pour les archis et les décorateurs d'intérieur. Ça parle de rentabilité, ça parle de posture d'entrepreneur et elle a clairement beaucoup de choses à nous apprendre. Voilà. À très bientôt. Merci d'écouter le podcast. Merci d'être là. Merci de m'envoyer vos MP. Merci de m'envoyer vos idées d'invitation aussi parce que ça m'aide beaucoup de savoir qui peut apporter des choses justement au niveau du podcast. Et puis, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.